Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons reprendre notre série dans le livre des psaumes, dans le psautier. Alors pendant plusieurs semaines, on va se concentrer sur le troisième livre du psautier qui va du psaume 73 jusqu'au psaume 89. Aujourd'hui, on va voir en particulier le psaume 73. Et vous pourrez suivre la structure, vraiment la logique du passage grâce à la feuille que vous avez reçue, si vous en avez reçu une. Alors, juste un petit récapitulatif avant de se lancer dans le psaume 73. Il y a 2 ans, vous avez vu que le psautier a été compilé, a été mis ensemble après l'exil d'Israël, après une période sombre de l'histoire d'Israël. Alors en fait, au travers du psautier, Dieu voulait encourager son peuple qui était revenu d'exil, et il veut aussi encourager les croyants, les chrétiens, qui sont eux aussi quelque part en exil, comme on l'a vu notamment en 1 Pierre. Il voulait les encourager et il veut nous encourager qu'il est bien fidèle à son peuple. Alors vous avez vu, si vous étiez là, que Dieu avait promis un roi parfait qui allait régner en justice. Notamment on voit ça au psaume 2. Et à la fin du deuxième livre du psautier, on a vu que ce roi, ce n'était pas David. En fait, ce n'était ni David, ni son fils Salomon. Non, ce roi promis, c'est Jésus-Christ. Alors, dans le troisième livre qu'on va voir durant ces quelques semaines à venir, alors, il y a beaucoup de psaumes qui parlent de la noirceur de l'exil. Et ceci pour le peuple de Dieu. On va voir qu'Israël était alors dévasté. Il n'y avait pas de roi, le temple était détruit et le peuple était exilé, était dévasté, parce qu'Israël avait désobéi, il avait péché contre Dieu. Alors pour décrire un peu cette période noire de l'exil dans ce troisième livre du psautier, les compilateurs ont inspiré par Dieu, ont mis dans ce troisième livre des psaumes qui ont été écrits par des gens qui avaient vécu durant d'autres périodes noires du peuple d'Israël, avant l'exil. C'est un peu comme si aujourd'hui on voulait faire un témoignage général de la vie dans les tranchées durant la Deuxième Guerre mondiale, et que pour une raison ou pour une autre, on n'avait pas de bons témoignages, ou on n'avait pas de témoignages tout court de la Deuxième Guerre mondiale, et qu'on utilisait, qu'on se référait à des témoignages de la Première Guerre mondiale. Ce serait même très pertinent pour ce témoignage. Par exemple, Asaph, qui a écrit plusieurs psaumes, dont la plupart dans le troisième livre du psautier. Asaph a vécu au temps du roi David, bien avant l'exil. Et ces psaumes qui décrivent des moments très noirs durant cette époque, dépeignent très très bien la période noire de l'exil du peuple d'Israël, et aussi les questions que le peuple se posait. Alors en lisant ce troisième livre du psautier, ce que je vous encourage vraiment à faire durant cet été, vous allez voir qu'on ne pourra pas reprendre toutes les paroles des psaumes directement pour nous. Mais il est vrai en même temps qu'on pourra reprendre quand même beaucoup des paroles de ces psaumes à notre propre compte. Par exemple, on pourrait facilement reprendre l'entièreté du psaume 73 à notre propre compte, parce qu'il décrit une lutte intérieure qui, je suis persuadé, se passe très souvent dans notre propre esprit. En effet, dans ce psaume, le psalmiste, celui qui a écrit ce psaume, partage avec nous ses doutes par rapport à la bonté même de Dieu, doutes qu'il reconnaît à la fin du psaume comme étant mal placés. Asaph a eu ses doutes lors d'une période très noire du règne de David, et ceux-ci décrivent bien les doutes que les exilés auraient pu avoir et ont pu avoir. En effet, ils voyaient les méchants prospérer autour d'eux, que ce soit dans leur peuple ou bien des peuples différents. Ils voyaient le peuple de Dieu vraiment souffrir alors qu'il s'attachait quelque part, qu'il était un peuple qui s'était attaché à Dieu. Et il commençait à douter de la bonté de Dieu. Et il commençait à se poser la question si ça valait vraiment la peine de s'attacher à Dieu. Et c'est exactement ce qu'on serait tenté de faire, de se dire aujourd'hui. Par exemple, en entendant parler des persécutions des croyants au Moyen-Orient, en Afrique ou en Asie, et des grandes difficultés matérielles auxquelles ils font face, des sceptiques pourraient se demander si ça vaut vraiment la peine pour eux d'être croyants. Ou si vous êtes croyant, peut-être êtes-vous parfois tenté de laisser tomber parce que vous voyez les non-croyants autour de vous prospérer alors qu'ils ne sont pas toujours réglo. Et parce que vous voyez tellement de croyants autour de vous et peut-être vous-même souffrir. Peut-être vous vous demandez parfois à quoi ça sert de continuer de m'attacher à Dieu. Eh bien, mettons-nous à l'écoute de ce psaume 73, qui est un chant et un écrit bien différent de nos chants et écrits contemporains, qui sont souvent hyper émotionnels et sans beaucoup de contenu. Mettons-nous à l'écoute de ce psaume qui nous fera du bien, parce qu'il aborde des questions bien difficiles qu'on pourrait se poser, qu'on se pose souvent. Et il nous rappelle des vérités essentielles. Mais avant cela, prions Dieu ensemble. Père, je te remercie pour ce psaume par lequel tu veux nous enseigner à nous confier plus en toi et par lequel tu veux corriger des pensées fausses que nous avons. Seigneur, je te remercie parce que dans ta parole, tu réponds à des questions difficiles que l'on se pose et tu nous rappelles des vérités essentielles. Je te prie que par ce psaume, tu nous aides à avoir une meilleure idée de ce qu'est la vie chrétienne et que tu nous convainques de la joie que c'est de te connaître. Amen. Alors lisons ce psaume qui se trouve à la page 392. Page 392, c'est le psaume 73. Lisons ensemble. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier. La violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent d'un visage plein de graisse. Les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il boit leurs paroles avidement comme de l'eau. Et il dit, comment Dieu pourrait-il savoir? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut? Voici comment sont les méchants, toujours tranquilles. Ils augmentent leur richesse. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, je suis repris. Si je disais, je veux parler comme eux, alors je trahirais tes enfants. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux. Jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine. Et voilà, en un instant, ils sont détruits. Ils ont disparu, anéantis par l'épouvante. Comme un rêve qui se dissipe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot. Et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu as fait. Alors, est-ce que vous avez remarqué la consternation du psalmiste face à tout ce qui se passe autour de lui et même dans sa propre vie, dans la première moitié du psaume, des versets 2 à 14? En gros, il se demande si ça vaut la peine d'être attaché à Dieu. Il se demande si ça vaut la peine d'être croyant. Il se demande ceci suite à deux constatations. Et tout d'abord, les méchants prospèrent et il en est jaloux. On voit cela dans toute cette première section des versets 2 à 14, mais les versets 3 et 12 résument bien cette réflexion qui se passe dans la tête du psalmiste. Il dit qu'il était jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Et au verset 13 et au verset 12, que les méchants sont toujours tranquilles et qu'ils augmentent leur richesse. Alors il faut bien considérer le contexte de ces versets avant de se les appliquer à soi-même. Les psaumes sont souvent écrits de manière poétique. Ce sont des écrits poétiques. Et par exemple, quand le psalmiste dit que les méchants sont toujours tranquilles et qu'ils augmentent leur richesse, il est en train de dire que c'est ce qu'il voit souvent se passer autour de lui. Aussi, le terme méchant, ça désigne les gens qui ne s'attachent pas à Dieu en lui faisant confiance. Ainsi, il constate que souvent, ceux-ci prospèrent et ne souffrent pas comme ceux qui s'attachent à Dieu. Et ceci alors même qu'ils ne s'attachent pas eux-mêmes à Dieu, alors qu'ils font preuve d'orgueil. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. Alors qu'ils ont des mauvaises pensées, des pensées qui débordent de leur cœur et qu'ils oppriment ceux qui les entourent. Les méchants, les non-croyants vivent selon leur voie et ont souvent la belle vie. Et cela trouble le psalmiste. Cela trouble le psalmiste et nous aussi. Et en plus, selon le verset 10, là, ils sont souvent populaires. Les gens boivent leurs paroles. Et le peuple, en voyant cela, qu'est-ce qu'il se demande ? Il se demande, est-ce que Dieu se rend compte de ceci ? Est-ce qu'il y a de la connaissance chez Dieu ? En voyant ça, le psalmiste est jaloux d'eux. Il se demande si ça vaut la peine d'être attaché, de rester attaché à Dieu. La deuxième constatation que fait Asaph pourrait se résumer aux versets 13 et 14. En gros, il arrive souvent que les méchants prospèrent, alors que ceux qui s'attachent à Dieu souffrent. Au verset 14, il dit qu'alors que les méchants prospèrent, chaque jour, il est frappé. Et tous les matins, il est repris. Et du coup, il se demande si c'est pour rien qu'il a purifié son cœur, qu'il a lavé ses mains dans l'innocence. En voyant que les méchants prospèrent et que les croyants, y compris lui-même, souffrent, Asaph se demande si Dieu est vraiment bon finalement et si ça vaut la peine de rester attaché à lui. Certains exilés auraient certainement pensé la même chose. Ils auraient été tentés de penser, et cela en voyant le temple détruit, ceux qui s'attachent à Dieu exilés, le peuple souffrant, dévasté, et les méchants prospérer. Alors il faut dire que selon le Nouveau Testament, les méchants de nos jours, ce sont ceux qui qui ne s'attache pas à Dieu dans la confiance en Jésus. Ce sont ceux qui vivent non pas selon les voies de Dieu, mais selon leur voie, sans se confier en Jésus, dans le sacrifice de Jésus, pour être attaché à Dieu, pour être accepté par lui. Alors, peut-être nous aussi, nous sommes troublés, nous sommes tentés de penser comme Asaph et comme les exilés. Est-ce que ça vous arrive parfois de penser un peu comme ça, de douter de la bonté de Dieu, de vous demander est-ce que ça vaut la peine de rester attaché à Dieu? Peut-être vous posez plein de questions et vous êtes tenté de douter justement de sa bonté. Et si ça vaut vraiment la peine de rester attaché à votre Dieu? Et ceci en voyant ce qui se passe autour de vous, ou peut-être même dans votre propre vie. Par exemple, quand nous voyons les non-croyants autour de nous qui mènent des belles vies, ne nous arrive-t-il pas de parfois glisser ou d'être tenté de glisser, de douter de la bonté de Dieu, ou même d'être tenté d'abandonner la foi, de dire, est-ce donc pour rien que je me suis attaché à Christ pour avoir le cœur purifié et pour être innocenté? Peut-être qu'ils prospèrent, ils ont une meilleure vie, ils ont les meilleurs boulots. Peut-être qu'ils sont bien plus populaires que vous, les gens boivent leurs paroles, alors qu'ils ne cherchent même pas à vivre de manière juste. Peut-être qu'ils sont en couple avec l'homme qu'ils veulent ou la femme qu'ils veulent, et vous non. Peut-être qu'ils ont des enfants, et vous non. Ou ils mènent la belle vie, et beaucoup d'entre eux ne font certainement pas face à autant de souffrances que vous et beaucoup d'autres chrétiens. Et tout ceci alors même qu'ils ne sont pas toujours réglo, alors qu'ils profitent du système et des autres, alors qu'ils oppriment des gens qui les entourent, et alors qu'ils ne s'attachent pas à Dieu. Nous arrive-t-il de penser que si on faisait les choses autrement, si on faisait les choses un peu plus comme eux, si on était un peu plus libre, si on n'était pas croyant, alors on serait beaucoup plus populaire comme eux. Alors on aurait plus ce qu'on veut. Alors on souffrirait moins peut-être. Alors on peut tout de suite dire qu'au sein de ces doutes, le psalmiste avait tort. Il avait tort de penser ainsi. Et ceci à plusieurs niveaux. Et tout d'abord, il avait tort de penser que la bonté de Dieu se mesure par les circonstances de la vie. En voyant la prospérité des méchants et la souffrance des croyants autour de lui, le psalmiste en est arrivé à douter de la bonté de Dieu et aussi à jalouser les méchants. Il en est arrivé à être amer, à être confus, à être consterné en voyant la souffrance de ceux qui s'attachent pourtant à Dieu. Il en est arrivé à mesurer la bonté de Dieu et à jalouser, en regardant aux circonstances autour de lui, parce qu'il se concentrait sur les circonstances des gens autour de lui. Alors il est vrai que ce psaume ne nous dit pas pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, permet que souvent les méchants prospèrent et que ceux qui s'attachent à Dieu souffrent. Ce qu'on a vu par contre en 1 Pierre, et je vous encourage à réécouter cela, mais le psalmiste avait tort de mesurer la bonté de Dieu au moyen des circonstances qui l'entouraient. Il avait mesuré la bonté de Dieu par une mauvaise interprétation de la providence de Dieu. Un autre problème chez le psalmiste, et bien souvent chez nous, c'est que on est souvent égoïste et égocentrique. On mesure souvent la bonté de Dieu en regardant à nos propres circonstances. Ainsi, quand les choses vont mal autour de nous ou dans nos vies, comme le psalmiste, on est parfois tenté de remettre en cause la bonté de Dieu. Seigneur, pourquoi ? Et il peut arriver que, que nous soyons tentés d'abandonner. En pensant ainsi, c'est comme si on disait que la foi est un simple plus dans la vie. Que c'est parce qu'on est croyant que tout devrait bien aller, ou que tout devrait aller mieux. On a tort de penser ainsi. Même s'il est vrai qu'on souffre de manière générale moins à cause de notre propre péché, parce que Dieu est à l'œuvre en nous, c'est faux de penser que parce qu'on est croyant, on ne devrait pas souffrir et qu'on devrait vivre des vies plus longues et plus prospères sur cette terre. C'est ce que les prédicateurs de l'évangile de la prospérité veulent nous faire croire. Et cela est faux. Cela n'est pas ce que la Bible enseigne. Aussi, ce serait une erreur pour un non-croyant ou une non-croyante de s'intéresser à la foi parce qu'il ou elle croit que Dieu va leur donner une vie meilleure. Ou parce qu'il ou elle croit qu'ils vont moins souffrir. Si une personne devenait croyante pour ces raisons-là, alors elle ne serait pas réellement croyante, parce qu'un croyant, ce n'est pas cela. En fait, quand on est croyant, on est souvent confronté aux mêmes souffrances qui frappent les non-croyants. Il ne faut pas se leurrer. Par exemple, la maladie ou d'autres événements, d'autres choses tragiques. Et il nous arrive souvent aussi de souffrir justement parce qu'on est croyant, parce qu'on se confie en Jésus à cause de notre foi, comme on l'a vu en 1 Pierre. Donc la bonté de Dieu ne se mesure pas par nos propres circonstances ou celles qui nous entourent. Et on ne devrait pas considérer Dieu et Jésus et la foi chrétienne comme un simple plus dans la vie. Ce serait une erreur. Alors dans la deuxième moitié de ce psaume, nous voyons que le psalmiste se reprend et qu'il réalise que oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de s'attacher à Dieu. Ça vaut la peine d'être croyant. Et ceci, quelles que soient nos circonstances. Et il nous donne deux raisons pour cela. Premièrement, vu le sort final des méchants et des croyants. Et deuxièmement, parce que Dieu est la bonne part des croyants. Alors, suite à cette lutte intérieure que nous venons de voir et qu'il nous arrive d'avoir nous-mêmes, le psalmiste réalise au verset 15 que s'il se mettait à parler ainsi, comme les méchants, il trahirait les enfants de Dieu. Il découragerait les autres croyants qui, dans leur propre marche avec Dieu. S'il tenait un discours erroné par rapport à la bonté de Dieu, il risquerait de faire dévier ses frères et sœurs. Donc faisons attention à ce que nous disons. Au verset 16, il reconnaît qu'alors qu'il était sur le point de glisser et qu'il réfléchissait à ce qu'il se passait, il ne comprenait pas bien. La difficulté était grande à ses yeux. Mais au verset 17, on voit ce qui lui a permis de se ressaisir. Vous voyez, quand il s'est approché de Dieu, quand il est entré dans ses sanctuaires, il a été rappelé de la vérité. Certainement parce que c'est dans les sanctuaires que la parole de Dieu était enseignée et proclamée. Il a été ainsi rappelé de la vérité, que oui, ça vaut la peine de s'attacher à Dieu, d'être croyant. Alors avant d'aller plus loin, il faut noter que de nos jours, il n'y a plus de sanctuaire physique, il n'y a plus de bâtiment où Dieu est présent. De nos jours, la Bible nous dit que c'est par son esprit, il est présent chez le croyant, dans le croyant. Et au milieu de l'assemblée des croyants, de l'Église qui est le sanctuaire, le temple de Dieu. Ainsi, c'est quand nous nous rencontrons, Dieu par sa parole en assemblée, que la vérité nous est rappelée. C'est alors qu'on réalise avec le psalmiste que lorsque notre cœur était aigri, nous étions idiots. Nous étions idiots de douter de la bonté de Dieu et de penser à l'abandonner. Pourquoi ? Pour deux raisons que le psalmiste donne. Tout d'abord, parce que le sort des méchants est terrible et celui des croyants est glorieux. Au verset 17, on voit qu'alors que le psalmiste s'approche de Dieu, il est rappelé de la destinée des méchants, de ceux qui ne s'attachent pas à Dieu en se confiant en lui. En effet, il a été rappelé de leur sort final qui, selon les versets 18 à 20, est la ruine, la destruction, l'épouvante, parce que Dieu les jugera, parce que Dieu repoussera leur image. Oui, comme le dit le verset 27, il réduit au silence tous ceux qui lui sont infidèles. Ainsi, on ne peut douter de la justice et de la bonté ultime de Dieu. Cette réalité du jugement de Dieu, quand on y pense, pour ceux qui ne s'attachent pas à Dieu, donne froid dans le dos, n'est-ce pas ? Il faut dire qu'on a souvent du mal à l'accepter, et je pense que c'est souvent parce qu'on ne réalise pas le sérieux, la gravité du rejet de Dieu. On ne réalise pas la gravité de notre rébellion contre lui en vivant selon nos voies, sans le reconnaître lui, sans se soumettre à lui, le créateur de toute la terre, de toutes choses. Le psalmiste dit au verset 1 que Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Vous avez vu cela ? Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Mais si on est honnête, il faut qu'on reconnaisse que notre propre cœur n'est pas pur. C'est pour ça que c'est seulement ceux qui s'attachent à Dieu, en se confiant en Jésus, qui peuvent connaître le bon sort final. En effet, Jésus, l'homme parfait, le seul qui a un cœur pur, est venu pour connaître la malédiction, le rejet, la destruction que ceux au cœur impur méritent. Et il a accepté de purifier des hommes et des femmes impurs. La foi chrétienne n'est donc pas un simple plus dans la vie. Non, elle résout le plus grand problème de l'homme. Notre problème d'une relation brisée avec Dieu à cause de nous-mêmes. Et ceux qui croient en lui, ils sont réconciliés avec Dieu. Et ceci pour l'éternité, grâce à Jésus. Ainsi, leur sort ne sera pas l'épouvante, le jugement pour toujours. Mais comme le dit le verset 24, ce sera la gloire, la gloire. Une vie avec Dieu pour toujours, dans la gloire. Ce sera de loin meilleur que la meilleure vie sur terre. Quelle bonté, quel cadeau merveilleux, quelle grâce, grâce à Jésus. Alors si vous êtes croyant, et s'il vous arrive de douter de la bonté de Dieu, ou d'être tenté d'abandonner la foi, à cause de peut-être de vos propres circonstances, ou de ce que vous voyez se passer autour de vous, alors repensez au sacrifice de Jésus. Repensez au sacrifice de Jésus et rappelez-vous de votre sort final grâce à lui. C'est ce que Horatio Spafford a fait, je crois que c'était au 19e siècle. Et c'est ce qu'il a fait alors qu'il avait perdu une grande partie de sa fortune et qu'il avait perdu son unique fils à cause de la maladie et ses filles dans un accident de bateau. C'est alors qu'il faisait la même traversée en bateau pour retrouver sa femme de l'autre côté de l'Atlantique, je pense, qu'il a écrit le chant « Quel repos céleste ». Et malgré ses souffrances, à ce que je sache, il n'a pas abandonné Dieu. Il n'a pas remis en cause la bonté de Dieu. Mais il a gardé ses yeux fixés sur Jésus et sur cette gloire qui lui sera donnée quand il reviendra. Il a fait de Dieu, de Jésus, son trésor, même dans les circonstances difficiles. Si par contre vous diriez que vous êtes un peu sceptique et que vous êtes plutôt en recherche, alors il faut que vous réalisiez que la foi chrétienne, ce n'est pas qu'un plus dans la vie. Non, grâce à Jésus, vous pouvez être réconcilié à Dieu pour toujours. C'est ça le plus important. Et vous pouvez éviter le sort final que méritent les non-croyants, que méritent les méchants qui rejettent Dieu. Alors je vous invite de tout cœur à bien considérer ce que Jésus a fait et à vous confier en lui. Ça vaut vraiment la peine d'être croyant, sachez-le. Parce qu'ainsi on peut connaître Dieu, le plus grand bien. Le vrai bonheur n'est donc pas dans nos circonstances, dans un emploi, dans la sécurité d'un emploi, dans une famille ou dans quelque chose d'autre, mais c'est dans une vie avec Dieu, pour toujours, grâce à Jésus. Enfin, la deuxième raison pour laquelle le psalmiste réalise qu'il avait tort de penser comme il le faisait, c'est que le vrai bonheur se trouve en Dieu lui-même, dès aujourd'hui. Dieu est la bonne part des croyants. C'est ce que le psalmiste reconnaît avec joie des versets 23 à 26 et aussi au verset 28. Et le croyant peut lui aussi chanter ces versets, lui qui est attaché à Dieu par Jésus. Ainsi, il s'exclame le cœur pur et les mains innocentées, que quelles que soient ses circonstances, il connaît le bonheur d'être toujours avec Dieu. Dieu le soutient, il lui a saisi la main et il le conduit au quotidien par ses conseils. Il reconnaît qu'il n'y a personne comme lui dans sa vie, personne. Il est son trésor, il est l'objet de ses délices. Il n'a personne d'autre au ciel et sur la terre, il ne prend plaisir qu'en lui. Son corps peut s'épuiser et ses circonstances autour de lui se détériorer, mais il connaît le vrai bonheur, parce qu'il connaît Dieu, le rocher de son cœur et sa bonne part. Oui, c'est Dieu qui est sa bonne part. Et pour lui, son bonheur, le bonheur, c'est de s'approcher de Dieu. En étant comblé de bonheur en Dieu, il place son refuge en lui, avec joie, afin d'ouvrir sa bouche et de proclamer tout ce que Dieu a fait. Dieu et Jésus, ce ne sont pas des simples plus dans la vie, mais ils sont tout dans la vie. Et c'est ce que le psalmiste se rappelle alors qu'il avait des pensées mauvaises, qu'il était tenté de douter de la bonté de Dieu et d'abandonner. Et les croyants qui sont troublés par ce qui les entoure et qui sont tentés justement de douter, ils peuvent dire avec le psalmiste, « Oui, Dieu est bon pour son peuple, pour ceux qui ont le cœur pur. Dans les bons et les mauvais jours, ils peuvent dire « Christ est ma vie » et mourir est un gain. » Le vrai bonheur, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Prions pour terminer. Seigneur Dieu, nous te demandons pardon de ce que nous doutons parfois, et même peut-être plus souvent de ce qu'on pense, de ta bonté. Seigneur, nous voulons te dire merci parce qu'en Jésus, on peut connaître le vrai bonheur que c'est d'être avec toi pour toujours. Éternel notre Père, nous te prions que tu nous aides à persévérer en te faisant confiance, en reconnaissant ta bonté, quelles que soient nos circonstances. Et nous te prions que tu nous aides à voir la joie immense que c'est que de te connaître et d'être avec toi grâce à Jésus. Amen.